Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Kapi. C'est avec une immense joie que nous vous retrouvons nombreux pour cette nouvelle édition de notre journal. Sans plus tarder, passons aux titres qui feront l'actualité de cette édition. Coup de filet au sommet des FARDC, l'armée congolaise passe à l'action. Plusieurs généraux et officiers supérieurs interpellés pour atteinte présumée à la sûreté de l'État. Le porte-parole appelle à préserver le secret de l'instruction. Tous les détails dans ce numéro. Kinshasa face aux érosions, le gouvernement passe à l'action. Travaux d'urgence lancés par le ministre des Infrastructures avec la promesse de démolir les constructions anarchiques. En fin de journal, zoom sur la recrudescence du choléra à Masisi. Le docteur Lucien Bindou, médecin chef de zone, dresse le bilan sanitaire dans le 28 aire de santé de Masisi. Ne manquez pas cet entretien exclusif. Ouverture de ce journal avec un coup de tonnerre. L'armée congolaise passe à l'action. Ces dernières heures, plusieurs hauts gradés des FARDC ont été interpellés. Selon le porte-parole de l'armée, ils sont soupçonnés d'actes graves menaçant la sûreté de l'État. Le général Sylvain Ekenge précise que l'enquête est en phase préjuridictionnelle et insiste sur le respect du secret d'instruction pour ne pas énerver la justice. Cette annonce a été faite ce samedi 22 novembre lors d'un point de presse à l'état-major des FARDC à Kinshasa. Blaise Shindani Kambala était sur place. Suivez son reportage.
Prenant la parole en premier, le général Sylvain Ekenge n'est pas allé par le dos de la cuillère quant aux inquiétudes de certaines ONG relayées par les réseaux sociaux en ce qui concerne l'arrestation de plusieurs officiers généraux et supérieurs.
C'est vrai, plusieurs officiers généraux et supérieurs des FARDC sont actuellement interpellés. Nous les confirmons. Mais ils le sont pour des faits hautement répréhensibles liés à la sécurité de l'État.
Concernant la durée de leur détention, le porte-parole de l'armée déclare que c'est sur demande du parquet militaire qui mène les enquêtes. Sylvain Ekenge.
Pour besoin d'investigation approfondie, leur durée de détention est conformément à la loi prolongée sous demande du parquet militaire qui mène des enquêtes.
Présent à cette cérémonie, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a déclaré avoir vu personnellement les officiers interpellés. Paul Sampou.
Mais tous, ils sont vivants et en bonne santé dans des conditions qui n'ont rien à voir avec les autres lieux d'enfermement. Mieux qu'à Makala, par exemple, mieux qu'à Andolo, dans ces deux prisons.
Les FARDC précisent que tous ces officiers interpellés par le Centre national de cyberdéfense sont assignés à résidence dans des conditions acceptables. Ils sont sous le régime de la liberté contrôlée.
À Beni, la police nationale congolaise renforce ses moyens. Ce vendredi, 5 jeeps Land Cruiser flambant neufs ont été remises par le gouvernement pour améliorer la mobilité des troupes et garantir une meilleure sécurisation des populations et de leurs biens. La cérémonie s'est déroulée lors d'une parade spéciale présidée par le commissaire provincial de la police au Nord Kivu. À cette occasion, le commissaire divisionnaire adjoint Dieudonné Makambo a exhorté ses éléments à redoubler d'efforts pour assurer la sécurité des habitants. Il s'exprime au micro de Marc Marofimbo.
Notre hiérarchie, les commissariats généraux, le ministre national de l'Intérieur à travers le commissariat général a doté nos éléments détenus et a mis à notre disposition de véhicules. Ça, c'est pour sécuriser avec la population et leurs biens. Et c'est pourquoi j'ai insisté. Vous avez constaté qu'avec moi ici, il y a eu la présence de nos bourgmestres pour qu'ils rappellent, pour qu'ils sensibilisent la population, pour que nous puissions tous nous approprier de ces mesures que nous allons prendre, c'est-à-dire le déploiement des policiers, nos patrouilles, pour que nous puissions tous mettre en dehors d'état de nuire les hors-la-loi. Nous faisons notre travail et l'armée, au niveau de la défense, fait son travail. Tous, nous faisons un travail pour que nous puissions récupérer tous les centimètres du territoire de la République démocratique du Congo.
À noter, lors de cette parade, le commissaire provincial de la police a également annoncé l'instauration d'une période de courtoisie routière prévue du 15 décembre 2025 au 15 janvier 2026. De retour au Maniema après une réunion à Kinshasa avec ses pairs gouverneurs et les bureaux des assemblées provinciales organisées par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, le chef de l'exécutif provincial salue l'initiative du chef de l'État. Pour Moussa Kabwankoubi Moïse, l'idée de stabiliser les institutions est géniale car, souligne-t-il, il n'y a pas de développement sans stabilité institutionnelle. Écoutez ces propos recueillis par Florence Kizalunga.
Le chef de l'État tient à la stabilité des institutions parce que c'est la base du développement des provinces. Il faut avouer que c'est déjà les souhaits de tous les gouverneurs, je pense même de tous les présidents des assemblées provinciales. Nous sommes conscients que quand il n'y a pas stabilité politique, il est difficile de parler du développement. Donc, nous avons bien accueilli cette instruction, nous avons bien accueilli ces messages. Et quand on a fini cette réunion, on a encore été retenus pour participer à la table ronde sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, qui a été présidée encore une fois par Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais en marge de ces deux activités, nous avons profité pour rencontrer les DG du cadastre minier qui étaient avec nous ici. Nous avons rencontré les responsables de la BAD, les directeurs des opérations de la Banque mondiale, les DG du CIC, tout ça pour l'intérêt de la province du Maniema.
Kinshasa face aux érosions. Hier vendredi, une délégation conduite par le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banza Lunda, a inspecté plusieurs sites gravement touchés dans les communes d'Ingaliema et Mongafula. Objectif, appliquer les instructions du président Félix Antoine Tshisekedi pour protéger les populations menacées par l'effondrement de leurs habitations sur l'avenue Kimbembo dans le quartier Binza d'Elvaux. Le ministre a lancé les travaux d'urgence et annoncé la démolition des constructions anarchiques qui entravent les ouvrages ou aggravent les ravins. On l'écoute dans cet extrait proposé par Alain Rong.
Nous avons commencé notre descente sur terrain à l'érosion de Kimbembo en Binza, à Delvaux précisément. La cause principale, les constructions sauvages. Encore une fois, quelqu'un construit, une autre personne construit et c'est devenu incontrôlable. Il n'y a plus de canalisation d'eau et donc la conséquence, ce sont des érosions qui emportent les maisons et qui menacent les vies humaines. Nous sommes ici à Kimwenza, là où la route s'est coupée en deux. La première érosion, parce qu'il y a deux érosions, deux grandes érosions qui ont coupé la route en deux. La cause, encore une fois, des constructions sauvages. Et donc il y a une grande part de responsabilité de la part de la population qui met en danger les paisibles citoyens. Qu'est-ce que nous faisons? Comme gouvernement responsable, nous devons prendre des mesures urgentes pour protéger les vies humaines.
En Ituri, un axe vital est à l'arrêt depuis 5 jours. Le trafic sur la route Bunia-Kasenyi qui relie la province à l'Ouganda et approvisionne plusieurs localités en vivres et produits essentiels est complètement paralysé en cause l'effondrement du pont Mbongu situé à 5 km de Bunia après des semaines de menaces sous le poids des camions. Conséquence, des tonnes de produits vivriers pourrissent, alertent les commerçants, tandis que les chantiers de construction sont à l'arrêt faute d'accès aux carrières du Mont Bleu. Isaac Remoyope fait le point.
Des centaines de véhicules transportant des marchandises sont bloqués de part et d'autre du pont Mbongu. Même les motards sont obligés de traverser la rivière en moto pour transporter les passagers et leurs biens. Les commerçants, dont les produits vivriers, pommes de terre, tomates, bananes, oignons, importés d'Ouganda commencent à pourrir, lancent un appel urgent au gouvernement pour une réhabilitation rapide du pont.
Vers l'autre côté. Nous avons des marchandises, il y a des pommes, il y a des oranges qui ont déjà commencé à pourrir aussi. Il n'y a pas d'autre position là où on peut encore faire transiter ces marchandises. Nous n'avons pas autre choix à faire. Nous attendons que là qui sont capables à reconstruire ces pommes.
D'autres opérateurs économiques tentent de décharger leurs marchandises pour les acheminer sur des motos, mais les risques de pertes sont importants et les coûts très élevés, déplorent-ils. Des dizaines de camions qui transportent du sable, du gravier et des moellons sont immobilisés depuis 5 jours, faute d'accès au site du Mont Bleu. Une situation qui bloque les travaux de construction sur plusieurs chantiers et prive la main d'œuvre des revenus. Tout s'appelle le gouvernement à réhabiliter en urgence les ponts défectueux sur cet axe vital dont dépend la survie d'une grande partie des habitants. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Nord Kivu, le programme alimentaire mondial PAM poursuit et renforce la mise en œuvre du projet Chakula Sokoni, littéralement la nourriture au marché dans les territoires de Masisi, une zone fortement touchée par le déplacement des populations. Une approche qui vise à renforcer la sécurité alimentaire pour environ 5000 familles vulnérables tout en soutenant l'économie locale. Cette nouvelle approche permet aux familles vulnérables d'accéder à la nourriture directement auprès des commerçants locaux grâce à des transferts monétaires électroniques. Denise Lukesso nous en parle dans ce reportage.
Grâce au transfert monétaire électronique du PAM, les bénéficiaires achètent désormais les denrées dont ils ont réellement besoin. Le PAM explique que ces mécanismes renforcent non seulement la dignité des familles, mais soutient également l'économie locale en collaborant avec des commerçants partenaires. Pascal Diro, chef de bureau, coordonnateur des zones Est du PAM à Goma, parle de son impact.
Le PAM a l'habitude de donner un certain nombre de denrées alimentaires de base. Ça peut être 4 ou 5 en fonction des contextes et des ressources. Mais ici, on a toute une liste de produits que le PAM va donner à ses différents bénéficiaires. L'impact, j'allais dire d'abord, c'est le sourire justement qu'on observe sur le visage de ces bénéficiaires-là. Cette façon de donner l'assistance augmente la dignité de ces bénéficiaires. Avant, ils avaient juste un nombre limité de vivres. Maintenant, ils ont le choix d'avoir beaucoup plus. Et aussi d'avoir des produits de leur terroir. Les populations mangent les produits cultivés dans leur zone. Maintenant, pour les commerçants, c'est une opportunité de se faire aussi de l'argent. Et quand ils auront cet argent, ils pourront beaucoup plus acheter des produits localement. Et ça augmente la demande de produits et donc ça motive les producteurs à produire davantage.
Cette approche lancée en septembre dernier pourrait, selon le PAM, s'étendre à d'autres zones du Nord Kivu si les ressources et les conditions le permettent.
Restons dans la région. La suspension des réseaux téléphoniques prive les enseignants de leur salaire dans les territoires de Masisi et Walikale. Depuis le début de la crise sécuritaire, la paye s'effectue par mobile money, mais sans réseau, le système est paralysé. De nombreux enseignants, notamment Anya Biondo et Pinga, sont dans l'incapacité de recevoir leurs notifications de paiement. Le syndicat national de professionnels de l'enseignement SINAP dans la province éducationnelle du Nord Kivu tire la sonnette d'alarme. Son secrétaire provincial Baunda Bauma Exaucé appelle les autorités à rétablir la connexion pour permettre aux enseignants de survivre. Ces propos ont été recueillis par Rosalie Zawadi.
Depuis que les salaires les ont été envoyés, ils n'ont même pas cette possibilité de retirer parce que dans certaines entités, il n'y a pas la connexion. Ils sont privés des réseaux mobile man, dont je parle ici de l'entité de Nyabiondo. Ça fait 2 semaines que les gens sont privés des réseaux. Il y a aussi l'entité de Pinga. Et là, les enseignants qui ont touché leur salaire, ils nous demandent même parce qu'il y a certains qui se connectent sur Wi-Fi. Est-ce que vraiment on a déjà payé? Parce qu'ils n'ont même pas cette possibilité d'observer les messages. Nous avons pris cette solution-là, croyant que peut-être c'est ce qui pourra nous soulager. Malheureusement, dans certaines entités, ils sont privés de raison. Mais comment ils vont alors retirer leur salaire pendant qu'ils ont déjà ça, mais ils continuent toujours à réclamer, croyant que la Caritas n'a pas encore payé. En tout cas, nous demandons au gouvernement de s'impliquer pour que les raisons puissent revenir dans les entités de Nyabiondo et de Pinga.
Il précise que des enseignants d'une centaine d'écoles sont concernés par cette situation. Bandou Bauma espère une réaction rapide des autorités. Selon lui, la coupure des réseaux mobiles ne bloque pas seulement la paye, elle isole davantage la zone et fragilise encore la sécurité. À Matadi, la société civile passe à l'action. Une délégation venue de Kinshasa mène un plaidoyer auprès des autorités provinciales du Congo central. Objectif, obtenir un financement local pour soutenir la prise en charge de la tuberculose, du VIH, sida et de la malaria, alors que les appuis internationaux se raréfient. Etienne Chimanga Mulumba, directeur technique de la coordination nationale de renforcement du système communautaire, insiste, il faut des ressources locales pour maintenir la lutte. Nana Plurich Mambo pour le reportage.
Accompagnée par Sanru, cette délégation de la société civile a rencontré les vice-présidents de l'Assemblée provinciale ainsi que les vice-gouverneurs du Congo central. Au cours d'un point de presse tenu ce vendredi 21 novembre, elle affirme avoir plaidé pour la création d'un fonds provincial de financement de la santé afin de garantir l'autonomie et la continuité des services. Cette démarche intervient en pleine session budgétaire et le chef de cette délégation encourage les décaissements effectifs des fonds dès 2026. Ces acteurs ont également alerté sur les difficultés d'accès aux soins aggravées par la dégradation des routes essentielles, notamment l'axe Kimvula-Mangembo. Étienne Chimangamulumba, directeur technique de la Coordination nationale des renforcements du système communautaire, a conduit cette délégation.
Aujourd'hui, le paysage de financement international est perturbé. Nous constatons le départ de plusieurs partenaires financiers potentiels. Devant cette situation qui nous donne une projection d'incertitude, il a été question pour nous de rappeler que la province doit prendre ses responsabilités conformément aux prérogatives constitutionnelles.
Cette mission est centrée sur un message clé. La province doit agir maintenant pour assurer la santé des populations. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Nouveau rap massif au Nigeria. 315 personnes, dont 303 élèves et 12 enseignants ont été enlevés vendredi 21 novembre à l'école catholique Sainte Marie dans l'état du Niger. Selon l'association de chrétiens du Nigeria, l'établissement pris d'assaut à l'aube était pourtant fermé préventivement face à la montée des menaces. Ces chiffres représentent près de la moitié de 629 élèves inscrits. Le gouvernement nigérian n'a pas encore confirmé le bilan. Le gouverneur Mohamed Omar promet des chiffres officiels et ordonne la fermeture de toutes les écoles de l'État, une mesure déjà adoptée par les États voisins des Katsina et Plateau. Le ministre de l'Éducation annonce également la fermeture des 47 lycées fédéraux dans le nord du pays. Le président Bola Tinubu a annulé sa participation au G20 pour gérer la crise alors que les enlèvements d'élèves se multiplient. C'est la deuxième attaque en une semaine après le rap d'une vingtaine de jeunes fille lundi dans l'état des Kebbi.
L'invité.
Notre invité aujourd'hui, Dr Lucien Bindo Kandundao, médecin chef de zone de santé de Masisi au Nord Kivu. Il revient sur la résurgence des cas de choléra dans sa juridiction qui couvre 28 aires de santé. Dans cet entretien avec Bernardine Diambo, il dresse l'état de la situation sanitaire dans son entité. Suivez.
Docteur Lucien Kandundao, bonjour.
Bonjour.
Comment se présente la situation sanitaire dans la zone de santé de Masisi?
Comme tous les autres territoires, la zone santé de Masisi aussi connaît le déplacement de la population et le regroupement de population dans des camps de familles d'accueil et dans les ménages spécifiques. C'est depuis la semaine épidémiologique 40 que nous avons commencé à notifier des cas de diarrhée coléréforme dans la zone. Les cas index avaient commencé dans l'aire de santé de Mianja, dans le poste de santé de Hembe. Et pratiquement, nous avons fait une investigation et nous avons commencé à faire la réponse et la prise en charge. Du côté de Mianja, jusque-là, nous sommes aux 40 cas. Mais la situation continue à s'aggraver au niveau de l'aire de santé de Masisi. Sur le plan mortalité, il n'y a pas de décès dans les centres de traitement, mais il y a des cas de décès communautaires. Deux cas enregistrés à Hembe à Mianja et un cas, un enfant du Mongaliema enregistré dans l'aire de santé de Masisi.
Et qu'en est-il de la prise en charge des malades?
Actuellement, les cas sont pris en charge à Hembe avec l'appui du partenaire Première Urgence Internationale qui est basé à Masisi Centre avec l'appui du partenaire MSF Belgique qui est aussi basé à Masisi, au niveau de l'hôpital général de référence. La situation commence à embrasser même des aires de santé avoisinantes, car nous avons enregistré des cas provenant de Kitsule, de Sati, à côté de l'aire de santé de Masisi. Il y a aussi d'autres petits soucis parce qu'il n'y a pas de camps de déplacés actuellement, mais nous avons remarqué, par exemple, pour Masisi Centre, 11 sites d'hébergement de déplacés. La prison centrale, il y a plus de 700 familles. Au niveau du bureau PVS Police, il y a plus de 80 familles et d'autres maisons où la population s'abrite. La population qui quitte les zones où il y a des affrontements pour s'abriter à Masisi Centre. Ces populations et d'autres qui sont dans les familles d'accueil ont des difficultés d'avoir des installations sanitaires convenables. Nous sommes en train de faire les plaidoyers. Nous sommes avec concerne fait quelques plaidoyers pour avoir des kits de choléra à tous les déplacés. MSF Belgique fait la prise en charge au niveau de l'hôpital. Il fait aussi quelque chose par rapport à la communication, à la sensibilisation de la population contre l'épidémie. Et il envisage faire quelques ouvrages WASH. Help the Child Down, Liskela ne s'est pas encore prononcé. Il est dans la zone aussi. Il est tenté de faire les plaidoyers. La Croix-Rouge de la RDC qui nous aide à pulvériser, à désinfecter les ménages ici des cas et appuyer aussi un kit choléra parce que ces populations-là, ils n'ont pas de moyens pour stocker de l'eau, pour le transport de l'eau, même si l'eau n'est pas de qualité pour désinfecter. Les amis de PPSP aussi, ils interviennent aussi à Mianja pour la construction des ouvrages hydrauliques. Massis Centre, il y a d'autres activités qu'ils envisagent de faire. Mais jusque-là, vraiment, nous prions beaucoup aux partenaires de plaider pour avoir une urgence et un appui à l'installation hygiénique, les toilettes, les douches et la disponibilité de l'eau de qualité au niveau de ces sites d'hébergement des déplacés.
Alors, docteur Lucien, face à cette résurgence des cas de choléra, qu'est-ce que vous recommandez à la population pour lutter contre cette maladie meurtrière?
Nous demandons toujours à la population d'être trop vigilant devant tout cas de diarrhée cholériforme, de se diriger vers les centres de santé les plus proches ou de trouver le site et le point SRO que nous avons installé un peu partout pour prendre l'SRO à côté. Aussi, nous le prions de ne boire que de l'eau potable. Nous le prions aussi de bien cuire les aliments, laver les fruits, laver les légumes, tout ça. Le lavage des mains doit être systématique, mais surtout aussi de garder un environnement sain et propre. Globalement, en dehors des grandes endémies comme paludisme, des problèmes de malnutrition, infection respiratoire, des jeux herméthiases, des cas de diarrhée simple, des diarrhées cholériformes nous attaquent chaque année. Mais le gros des problèmes aussi, la zone de santé a une très faible couverture en eau potable. Nous sommes presque à moins de 50%, surtout que les aires de santé les plus éloignées qui n'ont pas d'accès géographique et sécuritaire ont vraiment de très faibles couvertures en eau potable. Surtout à ces moments où il y a un déplacement continu des populations, et une forte concentration, une promiscuité de la population, il faut intervenir dans ces zones.
Radio Kapi, vous remercie.
Je vous remercie.
Vous venez d'écouter Dr. Lucien Bindo Kandundao, médecin chef de zone de santé de Massis au Nord Kivu. Il nous a éclairé sur la résurgence des cas de choléra et la situation sanitaire dans les 28 aires de santé de sa juridiction. C'est la fin de cette édition de 18h sur Radio Kapi. À la mise en onde de Pierre Diassinois, présentation assurée par Gisèle Cage sous la coordination de Jude Mister Bilanda. Merci de votre fidélité. Pour ne rien manquer de l'actualité, suivez-nous en temps réel sur nos réseaux sociaux ou rendez-vous sur notre site web www.radiocapi.net. Merci de votre écoute et à très bientôt sur Radio Capi.